Actu SF, les podcasts.
Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc aux Imaginales 2019 en compagnie de Stéphane Plateau, l'auteur des Sentiers des Astres aux éditions des Moutons Électriques et qui sortent aussi en poche chez J'ai lu, donc il y a déjà 2 tomes. Le premier qui s'appelle Manège et le second Shakti. Donc Méjo, c'est le 3e tome des Sentiers des Astres. Il ressort dans un nouveau format souple au mouton électrique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née cette saga? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, de prendre la plume et de vous dire « Allez, je me le lance ».
Alors l'envie d'écrire, elle a toujours été là. Depuis que j'ai appris à lire, ça ne m'a plus lâché, donc j'ai... Il fallait que je raconte des histoires, il fallait que je consacre ma vie à ça. Et je pense que quand vous réalisez qu'à pas mal de moments, vous avez plus envie d'être en train d'écrire dans votre chambre qu'avec des gens, même si vous avez en fait très envie d'être avec les gens, mais que c'est encore plus fort, c'est que c'est vraiment une vocation et c'est que là, c'est parti pour le faire pour de vrai, quoi.
Et donc, vous avez commencé à écrire assez tard ou ça faisait longtemps que vous aviez commencé à tracer les lignes des sentiers?
Alors écrire, j'ai toujours fait, j'ai toujours fabriqué des petites BD quand j'étais gosse, raconté des tas d'histoires de tas de manières en essayant des tas de supports, y compris des montages diapos où je mobilisais ma famille pour faire les voix des personnages et ce genre de choses, des petites pièces de théâtre, et enfin j'ai toujours été à fond là-dessus. Les Sentiers des Astres, j'ai vraiment commencé vers 30 ans, quand ma fille est née, en me disant bon là il serait grand temps que j'en mette un coup. Je profite du congé parental pour écrire un peu plus. Et voilà, donc là, j'ai vraiment mis un coup d'accélérateur. Et la saga est vraiment née du fait que j'avais plusieurs personnages en tête dont j'avais envie de parler, plusieurs histoires que j'avais envie de raconter. Je ne savais pas trop laquelle choisir. Je me suis dit que le plus simple, c'était de réunir tous ces personnages sur un bateau et d'organiser un petit voyage avec eux et de voir un petit peu, d'avoir un but commun, même s'il est... Le but n'est pas toujours exactement le même pour les différents personnages. L'objectif, le lieu à gagner est le même. Et puis de laisser chacun se raconter au cours du voyage, en fait.
Donc le premier tome, il commence avec qui? C'est qui ouvre le bal, entre guillemets?
Le premier tome, c'est Manesh, qui est recueilli dérivant sur le fleuve, les jambes brisées sur un radeau de branchage. Alors il faut se dire qu'on est dans la forêt de Viantrir. La forêt de Viantrir, c'est un peu l'équivalent de l'Alaska. C'est vraiment la taïga, c'est vraiment la forêt boréale, forêt vierge, inconnue, loin de toute civilisation. Et que le fleuve qu'on remonte, c'est le fleuve Framar. Et le fleuve Framar, vers ses sources, est aussi tout à fait inconnu, tout à fait sauvage. En fait, les sources du fleuve, on ne sait pas où elles se trouvent. Donc remonter un fleuve avec des moyens du Moyen-Âge, enfin d'une civilisation médiévale, c'est quand même particulièrement difficile. Là, ils utilisent des gabarres, des péniches à fond plat. Je me suis inspiré de ce qui existait sur la Loire au Moyen-Âge. Donc il n'y a évidemment pas de moteur. Donc c'est à la perche, pousser de la perche contre le fond vaseux, éventuellement à la rame si le fond est trop loin.
Peut-être avec des chevaux, non, pas encore.
Alors il y a un cheval à bord qui peut servir au halage, mais il n'y a pas de chemin de halage. Ça veut dire que les seuls moments où on peut tirer le bateau, c'est les moments où la berge est assez dégagée, ce qui n'est pas non plus souvent le cas. C'est vraiment pas une mince affaire. Et puis il n'y a évidemment pas d'écluse, donc si jamais une chute d'eau a passé, ça risque de tourner au portage. Donc voilà, puis sans parler des obstacles que la forêt elle-même va dresser sur leur chemin et des menaces qui guettent sous le couvert, donc c'est vraiment pas une mince affaire. Donc quand j'ai créé ce pitch, je ne me rendais pas bien compte à quel point c'était difficile de remonter le fleuve. Je me suis documenté, j'ai découvert un monde vraiment fascinant, le monde des bateliers du Moyen-Âge. Les bateliers d'ailleurs sont devenus un peu mes héros aussi, les héros originaux de la saga. C'est des héros qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Là, ils sont vraiment très présents.
C'est pas forcément le métier phare qu'on retrouve dans les romans de fantasy, c'est sûr.
Voilà. Et pourtant, j'ai des héros bateliers qui me tiennent fort à cœur et qui ont un rôle finalement très important dans le récit. Donc c'est vraiment un bel hommage. Tout ça pour dire qu'on a le temps, parce que la remontée est lente, et qu'on a le temps de se raconter. Donc c'est vraiment propice aux bonnes histoires, c'est propice aux récits de vie.
Sachant que ça, c'est les récits de vie passés, Mais finalement, il y a aussi l'intrigue présente, une guerre.
C'est ça, donc l'intrigue principale, c'est-à-dire l'expédition elle-même est racontée par le barde de l'expédition, Fintan Kalatin. Et Fintan va aussi nous donner des aperçus de temps à autre du background, du contexte général, à savoir qu'ils viennent d'un pays qui est déchiré par la guerre civile, le royaume de l'héritage, et que s'ils sont là, c'est aussi à cause de la guerre civile, c'est pour résoudre cette guerre civile, si possible à leur profit.
Voilà. Au fin fond de la forêt.
C'est ça, qu'ils vont chercher le roi Deezer. Et puis comment et pourquoi ce roi Deezer, donc cet oracle, peut les aider, ça c'est mystère, parce que le barde, notre narrateur, est un petit cachotier, et après tout, ami lectrice, ami lecteur, nous sommes en guerre, il ne va pas livrer si facilement ses secrets militaires, il va falloir gagner sa confiance. Et puis le barde lui-même va recueillir les récits de ses compagnons de voyage, parce qu'il ne comprend pas toujours ce que ces personnages font à bord. Il a beau être l'ami du capitaine Kalendun Rana, il ne connaît pas tous les replis de son âme. Par exemple, pourquoi le capitaine a-t-il jugé bon d'amener à bord la courtisane, une femme.
Sa petite fille en plus, une enfant en temps de guerre, dans un voyage dangereux. C'est vrai que sur le coup, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, quoi.
Voilà, donc ça, le barde va devoir le découvrir. Et il attend avec impatience que la courtisane elle-même se raconte et raconte
sa vie. Livre ses secrets.
Voilà ce qu'elle fera à partir du deuxième tome. Et elle prendra un petit peu plus d'un tome, non pas parce que les femmes sont bavardes, mais parce que les femmes dans une société patriarcale traditionnelle comme le royaume de l'héritage doivent lutter plus dur pour se faire une place, échapper à plus de dangers et arriver néanmoins à se construire et à s'épanouir. Et aussi parce que son récit me sert de prétexte pour raconter l'héritage et raconter la guerre civile elle-même.
Après, en plus, c'est pas la seule qui doit échapper à des dangers, puisque en fait, toute la troupe doit échapper à des dangers. C'est-à-dire que la forêt, elle regorge de bestioles vraiment pas fréquentables. Des bestioles qui, quand même, sont des dieux, ou en tout cas des serviteurs de dieux. Comment est-ce que vous avez construit votre univers, votre mythologie? Vous avez eu des inspirations en particulier?
Alors, je puise dans pas mal de mythologies différentes, dont la mythologie hindoue, la mythologie celtique, la mythologie scandinave, les mythologies grecques et romaines, et puis un peu partout. C'est vrai que les mythes hindous, celtiques, scandinaves m'ont particulièrement marqué, le Kalevala finnois aussi. Mais je n'utilise pas ces mythologies en tant que telles. Je m'en inspire et j'essaie aussi de construire une mythologie qui comporte des éléments qu'on retrouve de façon structurelle dans la plupart des mythologies, différentes étapes de l'évolution du mythe, etc. Je voulais que ça soit crédible, que ça soit une mythologie qui respecte un peu les grandes étapes des mythologies qu'on retrouve dans notre vrai monde réel. Et donc mes créatures, mes demi-dieux, mes créatures fabuleuses sont souvent des géants. Les géants, c'est comme ça qu'on personnifie les forces primordiales, les forces de la nature. Ici, c'est des gens. On parle de géants solaires, de géants lunaires et d'autres créatures fabuleuses. On parle aussi, bien sûr, de la faune et de la flore de la forêt. La faune et la flore non divines, quoique certains arbres, par exemple, aient un statut quasi divin également.
Des pollens rouges bizarres dans le 2, je crois, il me semble. Non, c'est moi qui rêve.
Dans le troisième tome, on découvre des animalcules qui dérivent dans l'air avec des sortes de petites ailes, mais qui se révèlent en fait être des graines d'un arbre géant.
Je l'avais remis dans le 2, mais oui, c'est dans le 3.
On a des formes d'arbres carnivores particulièrement subtiles. On a des créatures importées par des demi-dieux, mais on a aussi toute une faune de la forêt qui se révèle petit à petit. Plus bien sûr la faune boréale habituelle.
Et comment vous avez fait en gros pour allier tout ça? Parce que bon, il faut que ça reste cohérent, qu'il y ait l'histoire, que la mythologie soit cohérente, que finalement l'environnement, la nature soit cohérente aussi. Comment vous avez fait? Vous aviez plein de post-it de partout, vous avez épluché des encyclopédies.
C'est un travail permanent. C'est que si je vais voir un musée, si je lis un Science et Vie, si je lis un livre d'histoire, d'anthropologie, ou même simplement les actus, ou simplement que je rencontre quelqu'un un personnage que je trouve intéressant, tout ça est aussitôt noté dans ma boîte à idées, transformé, digéré, intégré à mon univers et varié. Par exemple, dans la fin du troisième tome, dans Les Marais, je ne vais pas dévoiler, mais on a une une créature qui s'inspire de la myxine, un poisson assez archaïque qui crée une, pour se défendre, une gelée qui durcit au contact de l'eau. J'en ai fait une version un petit peu upgradée. C'est des choses qui s'inspirent vraiment du science et vie, de ce que je peux trouver dans les lectures de magazines de vulgarisation scientifique ou tout simplement au hasard de mes recherches, de mes rencontres sur Internet, de mes lectures.
Donc là, on en parle depuis tout à l'heure. C'est vrai que donc il y a les personnages qui sont vraiment très importants, mais la nature, elle est aussi au cœur de votre roman. C'est aussi le thème cette année des Imaginales. Est-ce que en fait, c'était vraiment important pour vous de parler de la nature, peut-être à cause de tous les problèmes que rencontre notre planète actuellement, toutes les.
Alors l'importance, elle vient du fait que fondamentalement, pour moi, la fantasy, c'est un voyage. Ce qui est le plus important, c'est d'aller voyager dans ce monde imaginaire. Et dans un voyage, qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui est attractif? Eh bien, il y a les grands espaces naturels, il y a les décors qu'on rencontre, que ça soit la forêt boréale, la toundra, ou que ça soit la forêt amazonienne, la savane, les montagnes. Tous les décors de la planète sont fabuleux, sont fantastiques. J'ai envie de les voir tous, de les arpenter tous, de marcher dedans, de courir dedans. Voilà, tu m'imites très bien courant dans la savane ou dans la taïga, Estelle. Mais c'est aussi les gens qu'on rencontre, leur culture, leur tradition, les monuments qu'ils édifient, leur façon de rire, de parler, leurs gestes. J'essaye de créer un dépaysement aussi avec les gestes des personnages, avec leurs coutumes. Il y a des façons de hocher la tête, des gestes de bras, etc., des gestes de main qui sont originaux et qui sont propres aux cultures que j'évoque. Et je trouve ça important de créer le dépaysement par ça aussi.
Oui, mais vous n'aviez pas envie de sensibiliser ou voilà, c'était juste de la fantaisie pour le voyage. Il n'y avait pas de message spécialement derrière.
Il n'y a pas de message formaté, mais il y a un effet. C'est-à-dire que quand on aime la nature et qu'on la décrit, on transmet cet amour ou on le ravive chez le lecteur. Et je pense qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde sait, certains veulent peut-être le nier, mais tout le monde sait que la nature est menacée à plein de moments. Tout le monde n'est pas encore conscient qu'on fait partie de la nature, on l'a un peu oublié, et que donc on va trinquer aussi, et tout autant. Mais bon, voilà, c'était pas une volonté politique, c'était pas une volonté de faire passer un message politique là-dessus. Mais en même temps, je pense que la fantaisie tout entière procède d'une envie de renouer avec nos racines. Et dans nos racines, il y a retrouver l'époque. C'est peut-être pour ça que c'est maintenant qu'elle se développe tant, la fantaisie à l'époque moderne. Ça se sent chez Tolkien aussi très fort, l'envie de retrouver l'époque pré-industrielle, l'époque où on ne maîtrisait pas la nature, où on avait peur de la nuit.
Une sorte d'âge d'or, un petit peu.
Alors oui, le côté âge d'or, c'est notre part de fantasme. Est-ce que c'est un âge d'or? C'est un âge différent, c'est une enfance de l'humanité. L'envie de retrouver l'époque où on ne maîtrisait pas la nature, où la nuit était vraiment noire, où on avait peur de la forêt, des fauves, d'être dévoré, où le monde s'expliquait par la pensée magique parce que les sciences ne l'avaient pas encore exploré, où on avait peur même de ce qui était au tréfonds de nous-mêmes, on n'avait pas encore commencé à explorer vraiment non plus.
En fait, où l'équilibre était tout autre, finalement. Oui. On a bouleversé l'équilibre qu'il y avait avant.
Et aujourd'hui, l'homme change. Depuis deux siècles, il change très vite. Et il va encore changer probablement en profondeur. Et
on a le body painting en même temps, c'est intéressant. Ouais.
Et donc le fait que l'homme change, quand on change, on a souvent besoin de renouer avec ses racines. Et je pense que c'est pour ça que la fantasy est aussi nécessaire que maintenant. C'est explorer, la science-fiction s'occupe d'explorer notre futur, les nouveaux chemins qu'on va arpenter, qui sont des chemins qui sont nouveaux, qui ne sont pas accessibles à nos connaissances empiriques. C'est d'ailleurs le piège qui fait qu'on a tant de mal à réagir face au réchauffement climatique, par exemple, c'est qu'on a du mal à concevoir qu'on soit capable de changer complètement le climat de la planète. orons-les, de simples bactéries ont été capables de changer complètement l'atmosphère de la planète, alors pourquoi pas, pourquoi nous on ne serait pas capables de modifier le climat? Mais on a du mal à l'accepter parce que ça ne fait pas partie de nos connaissances empiriques. Et donc la science-fiction a l'avantage de l'anticipation, de pouvoir explorer le futur. Voilà, et c'est peut-être une façon aussi de nous mettre en projet en tant qu'humanité, de dire voilà ce qu'on peut devenir, voilà ce qu'on a les moyens de devenir. Voilà, attention aux dangers, mais voilà les potentiels. Et la science-fiction est une des seules démarches qui le fait de façon systématique. Et en même temps, la fantasy, je me suis souvent demandé finalement quel est notre rôle par rapport à un petit complexe de l'auteur de fantasy, par rapport à l'auteur de SF, dont le rôle de société est tellement évident, enfin, sauf pour plein de gens, mais en tout cas pour nous, complètement évident. Et nous, les auteurs de fantasy, c'est quoi notre rôle? Et finalement, notre rôle, c'est que, effectivement, quand on grandit, on a besoin de renouer avec son enfance pour se rassurer peut-être, pour se ressourcer, pour aussi mieux voir d'où on vient, pour mieux comprendre où on va.
Et d'ailleurs, où est-ce que vous allez? Un tome 4 bientôt?
Alors, un tome 4, oui, il est en cours d'écriture.
Ah oui. On n'était pas parti sur 3 tomes au début?
Oui. je parle du 5e prévu maintenant ou pas?
Non, on va s'arrêter au 4.
Il y en aura probablement 5.
D'accord. Le 1 prévu, il y a une date à peu près de prévu, non? Rien à révéler?
Non.
Et un 3e tome quand même qui sort en poche, donc mes jeux sortent en poche en octobre, novembre?
Au mois d'octobre ou dans les alentours immédiats, oui, j'ai pas encore la date exacte.
Aux éditions J'ai lu, donc.
Oui.
Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un bon salon.
Également. Et à bientôt.